Good job. Good job, le podcast pour s'épanouir au travail.
Avoir une bonne estime de soi, ni trop élevée ni trop basse, en voilà un sacré défi. Mais un challenge qui vaut la peine d'être relevé tant les bénéfices sont importants. Pour vous aider à trouver le bon équilibre et à gagner en sérénité, j'ai le plaisir de recevoir le psychiatre Christophe Andry, la référence sur ce sujet en France. Son nouvel ouvrage, paru aux éditions Odile Jacob, invite à s'estimer et à s'oublier. Et si c'était ça finalement la clé du bonheur ? Bonjour Christophe.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Bah bien, je suis un peu grippé, mais c'est pas si grave, tout le reste va bien.
Bon, espérons que ça passe vite. On est réunis pour parler de l'estime de soi. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous définir l'estime de soi et nous expliquer qu'est-ce que c'est concrètement ?
Ah, l'estime de soi, c'est un concept qui intéresse beaucoup les psychologues. C'est au fond le rapport que nous entretenons avec nous-mêmes et le rapport en termes de jugement, d'émotion, comment on se perçoit. Et on pourrait définir l'estime de soi en disant que finalement, c'est la réponse à ces trois questions qui sont: comment je me vois? Est-ce que je me vois plutôt positivement ou négativement? Est-ce que je me focalise sur mes défauts, mes qualités, mes succès, mes échecs? Ou est-ce que j'arrive à faire une synthèse harmonieuse entre les deux, les bons et les moins bons côtés? Ensuite, deuxième question, comment je me juge? Est-ce que j'ai tendance justement à trop me juger ou à avoir un regard peut-être plus distant, plus calme sur moi-même, ou est-ce qu'il faut toujours que je mette un jugement de valeur positif, négatif, succès, échec sur ce que je fais et est-ce que ce jugement ne risque pas de temps en temps d'être biaisé? Est-ce que je suis pas trop dur dans le jugement que j'entretiens sur moi-même et ou peut-être trop complaisant, hein, ça, tout ça se discute. Et puis aussi, c'est comment je me traite, c'est-à-dire quand quelque chose va bien ou va mal dans ma vie, est-ce que je m'encourage, je me félicite ou est-ce que je m'enfonce, je me stresse? Voilà, la synthèse de tout ça, c'est l'estime de soi. Donc, on comprend bien que c'est très important parce que ça infiltre un petit peu tous nos gestes, tous nos actes, tous nos vécus quotidiens. Mais c'est complexe aussi parce que finalement, c'est multidimensionnel, l'estime de soi.
Concrètement, ça veut dire quoi avoir une bonne estime de soi? Quels sont les ingrédients et qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on parle souvent en termes de quantité, mais la bonne estime de soi, c'est quoi?
Oui, c'est important hein, ce que vous dites sur la quantité, le côté quantitatif. Au début, quand on a commencé à mesurer l'estime de soi avec nos questionnaires, nos protocoles, on était surtout attaché effectivement au niveau. Est-ce qu'elle est haute ou est-ce qu'elle est basse? Autrement dit, est-ce qu'il y a une quantité suffisante de pensées positives sur soi? Est-ce qu'on considère qu'on a des qualités, qu'on est appréciable, qu'on réussit un certain nombre de choses? Ou bien l'inverse? Et puis on s'est aperçu qu'il ne suffisait pas d'avoir une haute idée de soi-même, une haute estime de soi, pour qu'elle soit bonne. Par exemple, on s'est aperçu qu'il y avait des gens qu'on appelle les narcissiques, qui sont très contents d'eux, qui ont une très haute image d'eux-mêmes, mais qui posent des tas de problèmes, à la fois aux autres et puis à eux-mêmes, qui sont toujours très stressés, très crispés, très tendus, parce que leur haute estime d'eux-mêmes s'accompagne aussi d'un relatif dédain des autres. Ils pensent non pas seulement qu'ils sont bons, mais qu'ils sont supérieurs aux autres, que les autres leur sont inférieurs, doivent se taire quand ils parlent, doivent les écouter quand ils donnent des conseils, qu'ils ont plus de droits que les autres. Et donc, une bonne estime de soi, c'est aussi une estime qui respecte les autres. Autrement dit, c'est pas parce que je dois cultiver une bonne image de moi, ce qui est effectivement important, que cela me donne le moindre droit d'avoir des avantages sur les autres ou de pouvoir les mépriser, les manipuler, les utiliser. Donc pour nous, la bonne estime de soi, c'est une estime de soi qui a conscience de ce qu'on doit aux autres et qui travaille plus dans l'interaction que dans la seule compétition. Souvent, on confond l'estime de soi avec quelque chose d'un peu compétitif, faire la course en tête, toutes ces choses-là. C'est parfois nécessaire hein, d'être dans des compétitions et dans le monde de l'entreprise. Bon, voilà, ça, c'est des choses qui sont régulières, hein, qui arrivent régulièrement. Mais c'est important aussi de temps en temps de savoir être dans la collaboration, dans l'échange, le partage. Voilà. Donc, c'est la bonne estime de soi. C'est pas seulement qu'elle doit être haute, mais qu'elle doit être aussi en quelque sorte consciente des interdépendances avec les autres personnes.
Comme vous le dites, il ne faut pas confondre bonne estime de soi et égocentrisme, ce qui m'amène à vous partager un extrait du livre « Plaidoyer pour l'altruisme » de Mathieu Ricard, que vous connaissez bien. Je vais vous lire un extrait de ce livre et vous allez me dire ce que vous en pensez. « Concentrer nos efforts uniquement sur nous-mêmes est l'une des manifestations regrettables de l'égocentrisme. L'individualisme, par ses bons côtés, peut favoriser l'esprit d'initiative, la créativité et l'affranchissement de normes et de dogmes désuets et contraignants. Mais il peut aussi très vite dégénérer en égoïsme irresponsable et en narcissisme galopant, au détriment du bien-être de tous. L'égoïsme est au cœur de la plupart des problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui, avec notamment l'attitude du chacun pour soi qui ne fait qu'augmenter. Nous avons besoin d'un fil d'Ariane qui peut nous permettre de retrouver notre chemin dans ce dédale de préoccupations graves et complexes. L'altruisme est ce fil qui peut nous permettre de relier naturellement les trois échelles de temps, court, moyen et long terme, en harmonisant leurs exigences. Dans le monde contemporain, l'altruisme est plus que jamais une nécessité, voire une urgence. » Et je trouve que cet extrait fait écho justement au titre de votre dernier livre qui s'appelle « S'estimer et s'oublier ». Est-ce que c'est ça aussi peut-être le but d'une bonne estime de soi, c'est de s'ouvrir vers les autres ?
Oui, oui, oui. C'est très important là, tout ce que vient d'expliquer Mathieu, que vous avez lu. C'est-à-dire en fait, on s'est aperçu que les gens qui avaient les estimes de soi les plus robustes, les plus fiables, les plus résilientes aussi, qui les aidaient le mieux à affronter l'adversité, c'était des gens qui fonctionnaient dans cette notion de partage, d'altruisme, d'interdépendance, et que, par exemple, quand vous remportez un succès, vous atteignez un objectif important pour vous, que se passe-t-il dans votre tête ? Est-ce que vous vous dites « je suis vraiment fort, je suis un winner, c'est tout pour moi, vraiment, je suis brillant » ou est-ce que vous vous dites « j'ai vraiment bien joué, j'ai fait ce qu'il fallait faire, je me suis préparé, donc je m'attribue une part de ce succès, mais je peux aussi avoir de la gratitude pour les autres personnes qui m'ont aidé à atteindre ce succès, les enseignants, il y a des années et des années, qui m'ont appris ce dont je me suis servi aujourd'hui, mon équipe qui m'a soutenu, ma famille, des collègues, enfin voilà. » Donc deuxième part d'attribution du gâteau du succès. Et puis, j'ai peut-être eu un peu de chance, j'ai bénéficié de circonstances, voilà. C'est-à-dire apprendre à percevoir nos succès comme étant la résultante harmonieuse de tout un tas d'influences, de nos efforts, mais aussi de choses qu'on a reçues de la part d'autres personnes, eh bien, on s'aperçoit qu'à long terme, ça rend l'estime de soi beaucoup plus robuste. Alors que pendant longtemps, on pensait qu'au fond, il fallait beaucoup se célébrer, il fallait être très fier de soi à chaque succès. C'est bien, hein, pourquoi pas, il n'y a pas de problème, être content de soi, mais si on oublie trop ce que nous devons aux autres et ce que les autres nous ont donné, et puis aussi ce qu'on est en devoir de leur donner également, eh bien, les estimes de soi qui vont en dérouler seront, comme le disait Mathieu, un peu trop individualistes.
En quoi cultiver une bonne estime de soi, c'est important au-delà de ce qu'on vient déjà de se dire, dans le monde du travail notamment, est-ce que ça peut être source d'épanouissement pour prendre du plaisir aussi au travail, ressentir de la satisfaction ?
L'estime de soi, lorsqu'elle fonctionne bien, lorsqu'elle joue son rôle, elle a de nombreuses conséquences. Effectivement, elle nous rend plus performants au travail parce qu'on ose entreprendre, on ose tenter. On n'a pas peur de partager finalement. Si je suis sûr de moi, si je sais que j'ai de la valeur, que j'ai des compétences, que j'ai des qualités, je serai moins frileux de garder mon petit savoir, mes petits trucs pour moi. Je les partagerai assez volontiers en me disant les autres vont partager également avec moi. Donc, l'estime de soi, quelqu'un qui a une bonne estime de soi dans un environnement de travail, mais dans tous les groupes humains en général, c'est quand même une très très bonne chose. C'est quelqu'un qui va aller vers les autres, qui va tenter des choses, qui ne va pas percevoir l'échec comme le marqueur de l'incompétence. Souvent, l'erreur qu'on fait, et l'erreur que peuvent faire aussi certains encadrants, certains managers, certains encadrements, au fond, certaines cultures d'entreprise, c'est de confondre l'échec avec la défaillance. Au fond, tous les échecs ne sont pas preuve d'une infériorité, d'une incapacité. Parfois, on a bien fait les choses et puis ça ne marche pas parce qu'il y a d'autres facteurs. On parlait tout à l'heure du gâteau du succès, ma part, la part des autres, la part du hasard. Il y a aussi le gâteau de l'échec. Quand il y a un échec, qu'est-ce qui me revient? Qu'est-ce qui revient peut-être aux autres? Et puis, qu'est-ce qui revient à la malchance et toutes ces choses-là? Donc globalement, oui, avoir une bonne estime de soi, c'est quelque chose de très bénéfique. Et à l'inverse, les gens qui n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes sont très frileux dans l'environnement de travail. Ils ont peur d'être mal jugés, ils ont peur de ne pas être à la hauteur. Donc, ils ont des attitudes de retrait, de prudence, ils collaborent moins que les autres, alors qu'ils ont les compétences assez souvent, mais ils ne croient pas en eux, hein, comme on dit. Et du coup, et ils ne donnent pas leur pleine capacité, ils n'offrent pas tout ce qu'ils pourraient offrir à l'environnement de travail. C'est pour ça aussi que c'est très important qu'un environnement de travail, qu'on puisse avoir confiance dans les autres, qu'on sache que nos erreurs nous seront non seulement pardonnées, mais seront acceptées. On dira, c'est l'échec, l'erreur, c'est le loyer de l'action, quoi. Si tu faisais rien, tu te tromperais jamais, mais bon, voilà. Il faut favoriser absolument la bonne estime de soi des collaborateurs en les traitant de manière, voilà, bienveillante. On définit souvent l'estime de soi comme une relation amicale à soi-même. Et l'amitié, c'est bienveillance et exigence. C'est-à-dire, je suis bienveillant avec mes amis, mais je suis exigeant avec eux aussi. Je souhaite qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Quand je les vois faire des erreurs, faire des choses inadéquates, je leur dis de façon bienveillante, mais je leur dis. Ben, l'environnement de travail, ça devrait ressembler à ça. Ça devrait être une sorte d'environnement amical tourné vers l'atteinte d'un objectif où les gens sont bienveillants avec moi sans renoncer à être exigeants également.
Alors, c'est une transition parfaite avec l'extrait que je voulais vous faire écouter. Vous allez écouter le chercheur Ilios Kotsou, qui justement nous parle de l'amitié envers soi-même, de la douceur envers soi-même et en quoi cette bienveillance peut aussi être clé pour nourrir une bonne estime de soi.
Ce qui peut nous amener à cette plus grande forme de stabilité intérieure, c'est ce qu'on appelle la douceur envers nous-mêmes, ce qui est traduit de l'américain souvent par auto-compassion, self-compassion. Et donc, ça serait cette capacité à pouvoir avoir une attitude amicale, on va dire. Ça serait comme entrer en amitié avec soi-même. Une bonne question à se poser, c'est comment traitons-nous un ami, une très bonne amie, lorsque cette personne vit des moments difficiles, lorsque cette personne a fait quelque chose dont il ou elle a honte, lorsque cette personne a le sentiment de ne pas être à la hauteur. Comment le ou la traitons-nous? Est-ce que nous allons la juger, la moraliser, la culpabiliser? Je ne le pense pas. Bien souvent, ce que nous faisons en tant que bonne amie, c'est nous allons l'écouter, nous allons la soutenir, nous allons simplement être bien souvent là pour l'accueillir dans ce qu'elle a à nous partager et peut-être l'encourager, la réconforter. Et puis la deuxième question à nous poser, c'est comment nous comportons-nous avec nous-mêmes lorsque nous avons ces moments, lorsque nous sommes en échec, lorsque nous avons échoué, ainsi de suite. Et ça serait commencer à nous traiter de la même façon. Entrer en amitié avec soi-même, c'est nous traiter comme nous aimerions traiter notre meilleur ami. Et c'est rarement le cas.
Est-ce que c'est une des clés pour nourrir l'estime de soi?
Oui, c'est une clé importante. Ben, c'est ce qu'on disait au tout début, comment je me vois, comment je me juge et comment je me traite. Parce que quand même, la vie nous blesse souvent, la vie nous fait mal, hein. C'est compliqué, que ce soit la vie en entreprise, la vie familiale, la vie en général. C'est pas juste un petit chemin de rose super sympa comme ça, il y a plein de moments où voilà, on va souffrir, on va être en échec, on va se sentir moins aimé, moins estimé par les autres. Et donc, c'est très important que dans ces moments-là, on ne s'enfonce pas. Souvent, beaucoup de personnes ont cette vision qu'en étant dur, être exigeant avec soi, c'est être dur avec soi. Mais c'est effectivement, bon, pourquoi pas, hein, ça peut être un style de vie, mais c'est pas forcément comme ça qu'on a les meilleurs résultats. L'exigence avec soi peut être aussi une exigence où quand on a des blessures, on répare ces blessures, on s'apaise, on va chercher du réconfort avant de se remettre au travail de progression. Donc oui, ce lien bienveillant avec soi, mais j'insiste sur un fait, parce que pour souvent, parfois, on perçoit ce type de discours, c'est le discours marqué par la psychologie positive, hein, disant qu'il ne faut pas oublier quand même tout ce qui est constructif, bienveillant, positif. Les gens ont l'impression que c'est un peu niaiseux, un peu immature et un peu irréaliste, que ça ne marche pas. En réalité, si, ça marche très bien, mais il ne faut pas voir la bienveillance, la douceur, la gentillesse comme étant des dimensions ou des pratiques qui écartent l'exigence, l'envie de compétition, etc. Ça doit être compatible, hein. C'est pas monodimensionnel. Ce que je tire du côté de la gentillesse, je le perds du côté de l'exigence. C'est bidimensionnel. Je peux être à la fois très exigeant et très bienveillant. Et ça, c'est capital à comprendre.
Quels seraient vos autres conseils pour nourrir cette bonne estime de soi?
Oh, ben, les deux nourritures de l'estime de soi, c'est très simple, ça on le sait parfaitement. Parce que l'estime de soi, vous avez raison, ce n'est pas une dimension acquise une fois pour toutes. Ce n'est pas comme le quotient intellectuel. Hein. Les performances intellectuelles, elles restent assez stables quand même tout au long de notre vie, même si on sait qu'il y a des choses qui les nourrissent plus que d'autres. L'estime de soi, elle peut fluctuer si je ne lui donne pas assez à manger. Et les deux nourritures de l'estime de soi, c'est d'une part la réussite de nos actions, ce qu'on appelle l'agentivité en psychologie, le sentiment que ce que je fais est efficace. Alors, il y a ce que je fais, bien sûr, dans le monde du travail. C'est pour ça que c'est très important que dans tous les métiers, les gens puissent voir les conséquences concrètes de leurs efforts et que ça ne soit pas trop lointain, trop abstrait, trop finalement imperceptible pour eux. Parce que ça, c'est très démotivant. Enfin, c'est d'abord très mauvais pour l'estime de soi. On a l'impression qu'on s'agite sans savoir pourquoi. Et du coup, la motivation, qui est une des conséquences aussi de la bonne estime de soi, s'effondre. Donc, cette agentivité, que ça soit dans le monde professionnel, important que chacun comprenne à quoi servent ses efforts et que ses efforts servent à remporter des succès, avoir des conséquences favorables. Mais c'est vrai aussi dans notre vie de tous les jours. Faire du jardinage, faire du bricolage, faire du sport, toutes ces choses-là nourrissent l'estime qu'on a pour soi parce que ça nous montre qu'on est des éléments actifs sur Terre, que nos actes ont servent à changer des petites choses. Et voilà, ça, c'est très important. Donc, première nourriture de l'estime de soi, l'agentivité. Et il faut que régulièrement, dans mes journées ou au moins dans mes semaines, je fasse des expériences de succès, que mes actions aient des conséquences favorables, dont je puisse me dire « super, voilà, j'ai été efficace, j'ai réussi à obtenir ça et ça ». Et puis l'autre nourriture de l'estime de soi, c'est le sentiment, alors ce qu'on appelle sur les réseaux sociaux, la popularité, le sentiment d'avoir ma place auprès des autres, d'appartenir à des groupes dans lesquels je suis reconnu, dans lesquels je sais que lorsque j'arrive le matin, on me dit bonjour, on s'intéresse à moi, on tient compte de mon avis, on m'associe aux décisions, on m'associe aux actions. Eh bien, ça, c'est très important. Ce sentiment d'avoir ma place dans les groupes humains, c'est une des grandes nourritures aussi de l'estime de soi. Donc, c'est évidemment vrai tout ce que je viens de dire en entreprise, hein. Vous l'imaginez que si l'entreprise où le matin, personne ne s'intéresse à moi, personne ne me parle, personne ne m'associe aux décisions, ben, ça, c'est la catastrophe. Ça s'appelle la placardisation. Mais c'est vrai aussi pour tout le reste de notre vie, appartenir à des clubs artistiques, sportifs, des associations, avoir un groupe familial dans lequel j'ai ma place, un groupe amical, des réseaux sociaux, des vrais réseaux, hein, bio, pas les réseaux sur les écrans, ceux-là, ils sont beaucoup moins bénéfiques, malheureusement. Voilà, donc ces deux nourritures de l'estime de soi, les nourritures liées à l'action et les nourritures liées aux relations, ça, c'est... Si je veux garder une bonne estime de moi-même, c'est un peu comme pour garder une bonne condition physique. Si je veux rester en forme physiquement, je n'ai pas à courir un marathon tous les jours, mais j'ai à monter des escaliers, à faire un peu de marche, à remuer mon corps, à faire un peu d'assouplissement, voilà, toutes ces choses-là. Rien de plus, mais ça me maintiendra en forme. Et l'estime de soi, c'est pareil. Si je veux garder une bonne estime de moi-même, toujours m'assurer que tout au long de mes journées, il y a des petits actes qui sont favorablement couronnés de petits succès. Et il y a des relations qui me nourrissent et qui m'enrichissent.
On a tous un rôle à jouer, du coup, pour aussi nourrir l'estime de nos collègues, de notre manager et réciproquement.
Oui, ça, c'est alors une fois de plus, la bonne estime de soi, c'est une estime de soi interactive. Hein. Je peux pas fonctionner tout seul dans mon couloir de nage sans jamais penser aux autres. Ça, enfin, une fois de plus, il y a parfois hein, ce genre de situation très compétitive, très performative où il faut absolument fonctionner sur ce registre-là. Mais la vie dans son ensemble ne marche pas comme ça. Et c'est vrai que soutenir les autres, aider les autres, venir à leur secours quand ils sont un peu en difficulté, les consoler, les conseiller, leur donner des conseils, leur apporter de l'aide, non seulement C'est bon pour ces autres-là, c'est bon d'être aidé, d'être soutenu, évidemment, mais on a aussi montré, dans presque toutes les études, montre que l'altruisme, l'entraide, enfin tout ce que je donne aux autres est bénéfique. Pour moi, m'apporte des émotions agréables, renforce mon estime de moi-même, puisqu'au fond, j'ai le sentiment d'être efficace, j'ai aidé quelqu'un, j'ai le sentiment d'être plus humain, je suis venu au secours d'une détresse ou d'une difficulté. Donc, une fois de plus, tout le monde y gagne, hein, à ce mouvement d'interdépendance, d'interactivité dans nos activités humaines et puis au fond dans l'estime de soi. Il y a mon estime, l'estime que j'ai pour moi-même, mais aussi prendre un peu soin de celle des autres, c'est tout le monde s'y retrouve.
Vous dites dans votre livre qu'on ne médite pas pour muscler l'estime de soi, mais pour se débarrasser de la peur, par exemple, d'être jugé, ce qui est indirectement aussi bénéfique à l'estime de soi. Alors, est-ce que la méditation peut nous aider aussi à peut-être à lâcher prise sur certains freins, certains obstacles à l'estime de soi?
Oui, c'est ça aussi, c'est les travaux de dernière génération qui montrent que des activités qui paraissent un peu éloignées de l'estime de soi, comme la méditation, l'immersion dans la nature, des choses comme ça, finalement, l'estime de soi s'y retrouve. Alors, pour la méditation, ben, on sait un peu, vous venez de l'expliquer, parce que pour comment ça marche, quoi, ça nous permet de moins nous faire piéger par nos émotions, nos peurs, nos inquiétudes, ça nous permet de mieux comprendre aussi nos vrais besoins, de ne pas faire semblant, de ne pas souffrir lorsqu'il y a un échec, mais de se dire non, cet échec te fait souffrir, fais pas le malin, accepte que d'être malheureux et donc accepte le réconfort, accepte qu'on te remonte le moral ou remonte-toi toi-même ton moral au lieu de faire comme si rien n'était. La méditation affûte notre intelligence émotionnelle et nos besoins émotionnels. Donc voilà, mais il y a d'autres effets. Puis elle nous donne ce petit recul par rapport à nous-mêmes qui est toujours bénéfique. Et pour l'immersion dans la nature, c'est sans doute la même chose. C'est-à-dire se connecter à quelque chose à l'extérieur de nous, quelque chose de stable, de pérenne, de rassurant finalement. Eh bien, indirectement, ça nous désaccroche de notre petit ego inquiet, toujours soucieux de qu'est-ce qu'on pense de moi, est-ce que je vais bien faire. L'immersion dans la nature, au fond, érode un petit peu ces inquiétudes, en tout cas la partie inutile de ces inquiétudes. C'est important de se demander ce qu'on pense de nous et si ce qu'on dit ou si ce qu'on fait est adapté, mais jusqu'à un certain point, il ne faut pas que ça devienne une obsession permanente et quelque chose de paralysant finalement.
Si je vous emmène dans le futur, en 2050, à votre avis, elle sera comment la question de l'estime de soi?
Alors ça, c'est une grande énigme. Ben, je crois que ça dépendra beaucoup du sort qu'on aura fait aux écrans et aux réseaux sociaux. Est-ce qu'on sera revenu, enfin, entre autres, hein, mais est-ce qu'on sera revenu à un usage raisonnable du monde virtuel et est-ce qu'on aura de nouveau privilégié les échanges réels et voilà, tout ce qui est frottement avec le réel dont on a besoin ou est-ce qu'on aura continué à bombarder les gens dans cette course folle où d'un côté vous êtes merveilleux et puis de l'autre si vous n'êtes pas hyper conforme ça se passera mal pour vous, vous serez laissé sur le bas-côté. Donc c'est très dur de lire dans la boule de cristal de l'estime de soi.
Pour finir ce podcast, il y a une tradition, mon invité pose toujours une question à mon invité suivant. Donc je vais vous faire écouter la question de Ludovic Giraudon qui a écrit un livre qui s'appelle Dream Team et il était venu nous parler du collectif, de l'équipe et donc de management.
Quel a été ton ou ta meilleur manager dans ton parcours professionnel passé et pour quelles raisons et question complémentaire, dans quelle mesure est-ce que cette rencontre impacte encore aujourd'hui ta vie professionnelle?
Ah, c'est ça de compliqué pour moi, puisque moi, j'ai pas eu de manager. Moi, j'ai été médecin hospitalier, donc j'ai eu des chefs de service. J'ai eu de la chance. En tout cas, ouais, ceux qui étaient toxiques, je les ai fuis. Et ceux qui étaient bénéfiques, je suis resté à leur contact. Non, mais finalement, moi, les chefs de service qui m'ont le plus apporté quand j'étais jeune, interne, jeune psychiatre, bah, c'est ceux qui me faisaient confiance, qui me disaient, voilà, tu t'es correctement formé, tu es bosseur, donc on te donne les clés du camion et tu as droit à un certain nombre d'erreurs au début, évidemment, on te couvrira, on t'aidera, on sera là pour t'aider, mais voilà, on te fait pleinement confiance. Et je trouvais ça hyper stressant, hein. Moi j'aurais aimé être beaucoup plus protégée, mais finalement, c'est le fait de me donner rapidement de la liberté, des responsabilités qui m'a le plus touché. Mais mon cas est un peu particulier, voilà, le monde médical est un peu à part.
Mais la confiance quand même est un fil rouge intéressant, oui. Je trouve, dans la relation, oui, avec le manager. Quelle serait votre question à vous sur l'estime de soi pour mon prochain invité ?
Quels sont les trois souvenirs marquants, peut-être un souvenir d'enfance, un souvenir de vie personnelle, un souvenir de vie professionnelle, durant lesquels l'invité, donc qui répondra à cette question, s'est senti le plus accompli, au fond, parce que l'estime de soi, elle se retrouve au travers de ces moments où on sent qu'on a fait ce qu'il fallait et on a créé une situation dont on est heureux, pas forcément fier, triomphant, mais on se dit, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait et là, je suis très heureux d'avoir été acteur de cette situation. Bon, c'est un peu compliqué, je suis désolé, c'est une question de psychiatre, c'est toujours un peu embrouillé, mais bon. Voilà, c'est une piste.
Très bien, c'est un exercice qu'on pourra tous faire aussi après avoir écouté ce podcast. Donc parfait, on va prendre notre feuille et on va se rappeler de ces trois souvenirs. Merci beaucoup Christophe.
Merci à vous.
Je rappelle votre livre « S'estimer et s'oublier » aux éditions Odile Jacob. Bonne journée, à très bientôt.
Bonne journée.
Good job. Good job, le podcast pour s'épanouir au travail. Ooh.